Chapitre 8. Temps d'arrêt. Mais l'autre pensée, la pensée de derrière la tête. Pascal. Le pacte était conclu. Avisant les deux grandes fourrures d'ours pendues à des patères de la muraille, le sombre ingénieur en offrit une à leur Evald. Il fait froid, en chemin, dit-il. Passez donc ceci. Leur Evald accepta silencieusement, puis, non sans un vague sourire. « Serait-il indiscret de vous demander chez qui nous allons » dit-il. « Mais chez Adalie, dans la foudre, c'est-à-dire au milieu d'étincelles de 3,70 m, répondit Edison, préoccupé et en revêtant son accoutrement de Samoyède. « Hâtons-nous » murmura d'un ton presque joyeux leur Evald. « À propos, vous n'avez aucune dernière communication à m'adresser, n'est-ce pas ?» demanda Edison. « Aucune, répondit le jeune lord. J'ai hâte de causer un peu, je l'avoue, avec cette jolie créature voilée, dont le néant m'est sympathique. Quant aux frivoles observations qui me viennent à l'esprit, il sera toujours temps. » Edison, à ces derniers mots, releva la tête sous les lampes radieuses et, retirant brusquement son bras de la lourde manche poilue, « Hein ? S'écria-t-il. « Oubliez-vous, mon cher lord, que je m'appelle l'électricité et que c'est contre votre pensée que je me bats ? C'est tout de suite qu'il faut parler. Déclarez-moi ces frivoles inquiétudes ou j'ignorerai contre quoi je lutte. Ce n'est déjà point si mince besogne de se prendre corps à corps avec un idéal tel que le vôtre. Je vous le dis en vérité, Jacob, lui-même, y regarderait à deux fois dans les ténèbres. Voyons. « Dites bien tout au médecin qui se propose d'atténuer votre tristesse. »« Oh, ces idées ne portent désormais que sur des riens, » dit le jeune homme. « Peste !» s'écria l'électricien. « Comme vous y allez, que sur des riens, mais un rien oublié, plus d'idéal. Rappelez-vous le propos de ce Français. Si le nez de Cléopâtre eût été un peu plus court, toute la face de la terre en aurait changé. » Un rien, mais de nos jours même, à quoi tiennent les choses qui semblent les plus sérieuses du globe ? Avant-hier, un royaume fut perdu pour un coup d'éventail donné. Hier, un empire pour un coup de chapeau non rendu. Souffrez que j'estime les riens, les néants à leur juste valeur. Le néant, mais ces choses si utiles que Dieu lui-même ne dédaigna pas d'y recourir pour en tirer le monde. Et l'on s'en aperçoit assez tous les jours. Sans le néant, Dieu déclare implicitement qu'il lui eût été presque impossible de créer le devenir des choses. Nous ne sommes qu'un, n'étant plus perpétuel. Le néant, c'est la matière négative, sine qua non, occasionnelle, sans laquelle nous ne serions pas ici à causer ce soir. Et c'est surtout en ce qui nous préoccupe, que j'ai lieu de m'en défier. Précisez quels sont les riens qui vous inquiètent. Nous partirons après. Diable, ajouta l'ingénieur, nous n'avons que le temps, fort juste, avant que votre vivante ne nous arrive et que je la plume de toute sa roue de paonne. 3h30, à peine. Se disant, il laissa tomber sa fourrure à côté de son fauteuil, s'assit, s'accouda tranquillement à une vieille pile de Volta, se croisa les jambes et, les yeux fixés sur ceux du jeune homme, attendit. Leur Evald, ayant imité son interlocuteur, lui répondit « Je me demandais, d'abord, pourquoi vous m'avez questionné si profondément sur le caractère intellectuel de notre sujet féminin. Parce qu'il me fallait savoir sous quel aspect principal vous conceviez vous-même l'intelligence, répondit Edison. Songez que le moins difficile est la reproduction physique et qu'enfin, s'il s'agit d'abord de pénétrer Adalie de la paradoxale beauté de votre vivante, le sérieux du prodige consiste à ce que l'Andréide, loin de vous désenchanter comme son modèle, soit digne à vos yeux du corps sublime où elle sera incarnée. Sans quoi, ce ne serait pas la peine de changer. Comment vous y prendrez-vous pour obtenir d'Alicia qu'elle se prête à cette expérience. En peu d'instants, cette nuit, pendant notre souper, je me charge de la persuader à cet égard. Ceci, vous le verrez, dussé-je employer la suggestion pour la décider. Mais non, la persuasion suffira. Ensuite, ce sera l'affaire d'une douzaine de séances en présence d'une grande ébauche de terre qui lui donnera le change. Elle ne verra même pas Adali et ne pourra se douter de notre œuvre. Maintenant, puisque pour s'incorporer en une semblance humaine, Adali s'exile de cette atmosphère presque surnaturelle où la fiction de son entité se réalise, il est indispensable, n'est-il pas vrai, que cette sorte de valkyrie de la science revête, pour demeurer parmi nous, les modes, les usages, l'aspect enfin des femmes et les vêtements du siècle qui passe. C'est pourquoi, pendant les dites séances, des couturières, gantières, lingères, corsetières, modistes et bottières, je vous donnerai l'étoffe minérale des semelles isolatrices et de leurs talons, prendront le double exact de toute la toilette de Miss Alicia Clary, laquelle, sans même s'en apercevoir, cédera la sienne à sa belle ombre dès que celle-ci sera tout à fait venue au monde. Une fois les mesures prises d'une toilette tout entière, vous pourrez en faire exécuter 1000 autres de tout genre sans qu'il soit même nécessaire de les essayer. Il va sans dire que l'Andréide usera des mêmes parfums que son modèle, ayant, comme je vous l'ai dit, la même émanation. Et comment voyage-t-elle ? Mais comme une autre, répondit Edison. Il est des voyageuses bien plus étranges. Miss Adali, étant avertie d'un voyage, il sera tout à fait irréprochable. Un peu somnolente et taciturne peut-être, ne parlant enfin qu'à vous seule, très bas et à de rares intervalles. Mais, pour peu qu'elle soit assise auprès de vous, il est complètement inutile même qu'elle baisse son voile. Oh, de jour ou de nuit. D'ailleurs, vous voyagez seul, je suppose, mon cher Lord. Eh bien, quelle difficulté voyez-vous ? Elle défiera tous les regards humains. Telle circonstance ne saurait-elle se présenter où la parole puisse lui être adressée légitimement ? Auquel cas, vous répondez que cette dame est étrangère et ne connaît point la langue du pays, ce qui clôt l'incident. Toutefois, à bord, par exemple, comme la simple question de l'équilibre est déjà très appréciable pour nous-mêmes, je vous dirai que Miss Adali n'a pas inscrite en elle de ces longues traversées au cours desquelles bon nombre de nos vivantes, si le tangage est rude, demeurent comme inanimées dans leur hamac ou de subites crises drastiques les secouent tristement jusqu'au ridicule. Étrangère à ses infirmités, Adali, pour ne point humilier par sa sérénité les organismes défectueux de ses humaines compagnes de route, ne voyage en mer qu'à la manière des mortes. « Quoi ? Dans l'un de nos cercueils ?» demanda Lord Evald surpris. Edison, grave, inclina la tête en un silence affirmatif. « Mais non point cousu en un suaire, j'imagine, » murmura le jeune lord. « Oh, vivante œuvre d'art, n'ayant pas connu nos langes, elle n'a que faire du linceul. Voici, l'Andréide possède, entre autres trésors, un lourd cercueil d'ébène capitonné de satin noir. L'intérieur de ce symbolique écrin sera le moule exact de la forme féminine qu'elle est destinée à revêtir. C'est là sa dot. Les battants supérieurs s'ouvrent à l'aide d'une petite clé d'or en forme d'étoile, et dont la serrure est placée sous le chevet de la dormeuse. Adali sait y entrer seule, nue ou tout habillée, s'y étendre, s'y assujettir, en de latérales bandelettes de batiste, solidement fixées à l'intérieur, de manière à ce que l'étoffe des parois ne touche même pas ses épaules. Son visage y est voilé. La tête y demeure appuyée, en sa chevelure, sur un coussin, et le front est retenu par une ferronnière, un bandeau qui en fixe l'immobilité. Sans sa respiration toujours égale et douce, on la prendrait pour Miss Alicia Clary, décédée du matin. Sur les portes refermées de cette prison est scellée une plaque d'argent où le nom de Adali est gravé, en ces mêmes lettres iraniennes, où il signifie « l'idéal ». Il sera surmonté de vos antiques armoiries qui consacreront cette captivité. Le beau cercueil doit être placé dans une caisse de camphrier entièrement doublée de ouate et dont la forme carrée ne saurait provoquer aucune réflexion. Cette geôle de votre rêve sera prête dans 3 semaines. Maintenant, à votre retour à Londres, un mot au directeur des douanes de la Tamise suffira pour obtenir franchise de votre mystérieux colis. Lorsque Miss Alicia Clary recevra votre adieu, vous serez dans votre château d'Attleworld où vous pourrez éveiller son ombre céleste. Dans mon manoir ? Oui, au fait, là, c'est possible, murmura Lord Evald, comme à lui-même, et tout est perdu d'une terrible mélancolie. Là seulement, dans ce brumeux domaine, entouré de forêts de pins, de lacs déserts et de vastes rochers, là, vous pourrez, en toute sécurité, ouvrir la prison de Adali. Vous avez, je pense, en ce château, quelques spacieux et splendides appartements dont le mobilier date de la reine Élisabeth. Oui, répondit Lord Evald avec un amer sourire. Et j'ai pris, moi-même, autrefois, le soin de l'embellir de toutes sortes d'œuvres merveilleuses et d'ornements précieux. Le vieux salon ne parle à l'esprit que du passé. La grande, l'unique fenêtre à vitraux, sous des draperies surchargées de séculaires fleurs d'or ternies, s'ouvre sur un balcon de fer dont la balustrade, encore brillante, fut forgée sous le règne de Richard III. Des marches, obscurcies de mousse, en descendent jusqu'en notre vieux parc, et, plus loin, des allées perdues, sauvages, se prolongent sous l'ombrage des chênes. J'avais destiné cette souveraine demeure à la fiancée de ma vie, si je l'eusse rencontrée. Lord Evald, après un morne frisson, continua. « Eh bien, soit, j'essaierai de tenter l'impossible. Oui, j'y amènerai cette illusoire apparition, cette espérance galvanisée. Et, ne pouvant plus aimer, ni désirer, ni posséder l'autre fantôme, je souhaite que cette forme déserte puisse devenir l'abîme tristement contemplé au vertige duquel s'abandonneront mes derniers rêves. Oui, ce manoir est le milieu qui convient le mieux à l'Andréide. Je le crois, dit gravement Edison. Vous le voyez, bien que peu rêveur de ma nature, je m'associe à l'audace de la vôtre, qui m'est, d'ailleurs, sacrée. Là, seulement, Adali sera comme une mystérieuse somnambule errante autour des lacs ou sur les bruyères interdites. Dans ce donjon désert où vos vieux serviteurs, vos livres, vos chasses, vos instruments de musique vous attendent, les êtres et les objets s'accoutumeront bien vite à la nouvelle advenue. Le respect et le silence lui feront une insolite auréole. Les serviteurs, ayant reçu l'ordre de ne jamais lui adresser la parole, puisque, par exemple, s'il est nécessaire de légitimer ceci, au fort d'un grand danger auquel vous l'auriez arraché, cette solitaire compagne aurait fait vœu de ne répondre plus qu'à vous seul. Là, son chant d'immortel, on la voit qui vous est chère, accompagné par l'orgue, ou, pour peu que vous le préfériez, par quelque puissant piano d'Amérique, passera, dans la majesté des nuits d'automne, au milieu des plaintes du vent. Ces accents approfondiront le charme des crépuscules d'été, jailliront dans la beauté de l'aurore mêlée au concert des oiseaux. Une légende s'éveillera dans les plis de sa longue robe lorsque, sur les herbes du parc, on l'aura vu passer, seul, au rayon du soleil ou sous les clartés d'un ciel d'étoiles. Très effrayant spectacle dont nul ne saura le secret sans pareil, hors vous seul. J'irai peut-être un jour vous visiter dans cette demi-solitude où vous acceptez de braver perpétuellement deux dangers, la démence et Dieu. Vous serez le seul hôte que je recevrai, répondit Lord Evald. Mais, puisque la possibilité préalable de cette aventure est maintenant établie, examinons si le prodige lui-même est possible et de quels moyens inconcevables vous vous servirez pour l'accomplir. « Soit, dit Edison, je dois vous prévenir toutefois que les arcanes du fantoche ne vous révéleront pas
comment il deviendra le fantôme.
Pas plus que le squelette inclus en Miss Alicia Clary ne vous expliquerait comment son mécanisme s'idéalise, unifié à la beauté de la chair, jusqu'à faire mouvoir ses lignes d'où provient votre amour. »